France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
C'est l'heure du goûter.
Les garçons, venez goûter. J'ai fait du riz au lait.
Oh, chouette.
Et goûter à l'ancienne, c'était du pain avec des carrés de chocolat à l'intérieur, meilleur goûter de la terre.
Et toi, Pat, c'est qui a inventé le goûter?
J'en sais rien. Bon, en tout cas, il est très fort.
Alors, un goûter qui, personnellement, me décevait toujours quand on tombait là-dessus. Quand tu sortais d'une journée de cours et que t'avais qu'une pomme, t'étais triste.
Alors, par pitié, pas de gâteau industriel. C'est nul, c'est cher, il y a plein d'additifs et c'est bourré de sucre.
J'ai plus faim parce que là, je suis remplie de chocolat.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. 11h04 à l'horloge de France Inter, c'est l'heure du brunch. Mais on vous propose pourtant une émission sur un autre rituel gourmand, le goûter, cette collation plus ou moins légère, plus ou moins informelle, plus ou moins festive, plus ou moins sucrée, qu'on prend seul ou accompagné au milieu de l'après-midi. Du goûter d'anniversaire aux 4h en passant par le tea time, on se prépare un goûter ultra gourmand avec notre invité Floriane Dumaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes styliste, autrice culinaire et vous avez signé C'est l'heure du goûter sans chichi. C'est important, le sans chichi, c'est aux éditions First. C'est un ouvrage qui fait partie d'une collection que vous avez montée, La cuisine des gestes simples, c'est bien ça, il y a d'autres volumes d'ailleurs.
Oui, c'est ça, c'est une collection qui est pour l'instant composée de 3 titres. Et le goûter, c'est évidemment plein de recettes sucrées. Ça va être autant de petites recettes de l'enfance, de petits gâteaux, que de gâteaux un petit peu plus contemporains avec des influences un peu différentes aussi.
N'en dites pas trop, mais vous nous avez apporté 3 très belles recettes qui illustrent chacune à leur manière une vision du goûter. Rappelons que La cuisine des gestes simples, ce sont des livres au format tout à fait original, un peu à l'horizontale, avec des recettes très accessibles. C'est le principe, et surtout mise en scène de façon très didactique avec des pas à pas en photo. C'est vraiment une chouette idée.
Ouais, exactement. L'idée, c'était que les recettes, elles soient pas trop impressionnantes, et puis surtout qu'on perde pas les lecteurs et les lectrices en cours de route.
Ah, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Recette super simple.
Il y a des étapes visuelles à chaque fois pour illustrer les pas à pas et pour vraiment nous aider dans la confection des recettes.
3 recettes du goûter qu'on va vous dévoiler dans un instant et qui sont signées Floriane Dumaine. Quelles sont les origines historiques du goûter? Comment a évolué ce repas de l'après-midi au fil des siècles? Quelle est sa sociologie aujourd'hui? Le regard de notre historien de l'alimentation et de la gastronomie nous intéresse. Loïc Bienassi, bonjour.
Bonjour.
Ça va?
J'essaierai de répondre à tout ça, en tout cas.
Bah, vous êtes là pour ça en même temps.
Oui, mais c'est une gageure.
On vous paye même un peu pour ça.
N'allons pas sur ce terrain.
Avec nous également notre reportrice Zazie Tavitian et notre chef cuisinière Manon Fleury. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Zazie.
Alors moi, je me suis rendue à Marseille pour un goûter avec chichi. Les chichis, ce sont ces beignets frits tout à fait irrésistibles.
Ah ouais, alors là, c'est carrément les steaks, hein.
Ouais, c'est assez coquin, vous allez voir.
Génial. Manon.
Moi, François-Régis, j'ai une question pour vous aujourd'hui qui va dépendre de si vous suivez bien les réseaux sociaux ou pas. Est-ce que ça tangoulou?
Ah, est-ce que ça tangoulou? Je vois, vous faites allusion à un trend, comme on dit en bon français.
Exactement.
Qui effectivement envahit les réseaux sociaux. On va voir ça, on va résoudre cette énigme pour ceux pour qui ça ne dit rien. Avec vous, Manon, tout à l'heure, c'est notre mangeur masqué préféré. Il a désormais son rond de serviette dans notre émission. François Simon, bonjour.
Bonjour, on va complexifier les choses simples.
Et ce sera votre chronique. Votre chronique, ding! Tous nos contenus, les recettes de notre invité Floriane Dumaine, nos bonnes adresses, nos podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr, la page On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, On va déguster.
À 4 heures, la cloche du goûter sonnait. C'était un des beaux moments du jour. Le pain chaud, les confitures de prunes, la crème qu'on battait à la cuillère. Nous arrivions en courant les joues rouges, les mains tachées d'encre ou de terre, pour nous asseoir, haletants, devant la grande table. Maman, debout près de la fenêtre, surveillait nos appétits d'un œil indulgent. Elle disait quelquefois « Assez, mes enfants, vous allez vous gâter le dîner !» Mais elle souriait en même temps et nous la savions peu sévère pour ses gourmandises du retour de classe. Le goûter finissait dans la lumière déclinante. On entendait au loin la rumeur du village, le pas lent des vaches qu'on ramenait, le grincement du puits. Tout tout cela faisait partie du même bonheur tranquille.
Un extrait de Sido, le livre que Colette consacrait à sa mère, la matriarche, en 1930. Un texte tendre, nostalgique, sur l'enfance, lu par l'amie Patricia Martin, et on l'en remercie. Il y a de la gourmandise et en même temps, il y a de la frugalité hein, dans ce texte. Le pain chaud, la confiture de prune, la crème qu'on battait à la cuillère. Ce rituel gourmand ne tient finalement pas à grand-chose, hein, des choses simples. Quelques tartines. Qui, autour de cette table, a eu le droit à des tartines dans l'enfance pour le goûter ? Levez la main. Ah, quand même ! Non mais attendez, 4 mains sur 5. Loïc, tartine.
Tartine, beurre et carré de chocolat. Ouais. Mais aussi ouais. Pas mal de gâteaux industriels.
Hein, ah, pas mal de gâteaux industriels. Et ben oui, les industriels ont fait haro sur le goûter et nous ont imposé la consommation de biscuits industriels à plein de générations d'enfants. Manon aussi, hein.
Ouais, tartine. Moi, je suis l'enfant des années 90, donc biscuits industriels aussi. Et tartines, beurre, confiture, parfois Nutella, hein, parce qu'on l'a pas cité jusqu'à maintenant. Je me suis dit le droit.
Oui, allons-y, on n'est pas à ça près. Hein.
Et donc, non, sinon, confiture de ma grand-mère. Voilà, donc quand même souvenir de ce pain chaud avec ce pain beurré, qui est quand même, en tout cas, toujours une madeleine.
Tartine, Zazie tartine.
Tartine aussi. Moi, je me souviens que j'étais affamée, surtout quand je rentrais de l'école. Donc, je mangeais tout ce que je trouvais. Et je me faisais des tartines aussi, beurre salé Nesquik. Je ne sais pas si vous
avez fait
cette fameuse mélange. Bah,
Laurent Thomas, notre réalisatrice, m'a expliqué qu'elle a été élevée aux tartines avec du beurre saupoudré, hein, de cacao, de Nesquik aussi. Voilà, elle acquiesce derrière la vitre de la régie.
Voilà, on a ce point en commun.
François Simon n'a pas le droit de savoir.
Et vous, François Régis, c'était quoi, brioche et confiture à la rhubarbe?
Qu'est-ce que c'était? Un peu de biscuit industriel, je dois bien le reconnaître. Et puis des tartines, mais moi j'aimais bien le miel. Oui. Le miel sur le beurre.
Pas mal, oui.
Et vous nous direz pas?
Bah si, un peu plus tard. Moi, des tartines et compotes.
Tartines et compotes?
Pas bon.
Mais la compote sur la tartine.
Ouais, enfin. C'était désastreux, quoi. Dessus, dessous, à côté, c'était toujours pas bon.
Floriane, alors pas tartine, visiblement.
Non, pas tartine. Bah, moi, j'avais une maman qui cuisinait plein de bons gâteaux. Mais le gâteau qui me ramène vraiment dans une émotion de l'enfance, c'est plutôt un gâteau qu'on trouvait dans les boulangeries. Alors, je ne sais pas trop comment a évolué ce gâteau, parce que pareil, c'était dans les années 90 et c'était en Alsace. Mais c'est un gâteau que j'appelle patate. Je ne sais pas si c'est le...
Oula, patate, qui connaît ça?
Je ne sais pas si c'est son nom Loïc. Officiel, d'ailleurs.
Oui. Patate.
Oui, il y a une pâtisserie à côté de chez moi, on en trouve.
Qui fait des patates.
Alors, on en trouve toujours.
Définition de patate dans le registre pâtissier.
Alors, c'est un gâteau qui est en forme de patate, qui est donc façonné avec de la pâte d'amande et saupoudré de cacao pour faire un peu cet effet terre de la patate. Et à l'intérieur, il y a un biscuit moelleux type génoise et c'est fourré avec de la crème pâtissière.
Ah oui, voilà. Ça a l'air bien riche.
Oui, c'est bien riche, ouais. Ça, c'était un goûter.
Après, on est calé, c'est clair.
Exactement.
Parfait. Il y a par ailleurs, dans votre univers familial, puisque vous avez des origines alsaciennes, hein, vous avez d'ailleurs reçu Floriane pour une très chouette émission en direct à Strasbourg pour votre excellent livre « Au plat ». Non, je vais pas tenter l'accent, mais
trop
c'est
tard.
« Au plat, manger alsacien » aux éditions First, toujours. Et puis, il y a évidemment cette tarte familiale très présente hein, dans les foyers alsaciens. J'ai nommé la...
La tarte Linz.
Ou de Linz, ou Linz.
Moi, je dis tarte Linz, mais on peut dire de Linz, et on peut aussi dire Linzer Torte en alsacien.
Linzer Torte, et c'est pas votre goûter préféré, c'était plus exactement le goûter préféré de votre sœur, mais cette tarte était préparée par votre maman, elle est là, dans nos assiettes. Mettez un coup de croc dedans, essayez de deviner, s'il vous plaît, la nature de la confiture, car le principe, c'est effectivement une tarte qui est recouverte notamment de confiture. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est une tarte donc avec une pâte sablée qui est assez généreuse, où il y a de la poudre d'amande, même des amandes concassées à l'intérieur, du cacao, et puis évidemment un peu de cannelle. Et au-dessus, c'est recouvert d'une couche de confiture.
De confiture de, alors, un fruit ?
Framboise.
Bravo, bien joué. Framboise, c'est que ça doit être une bonne confiture alors, hein,
ouais,
pour la reconnaître.
C'est une très bonne confiture qui vient de Christine Ferber, qui est un peu la papesse des confitures en Alsace.
Ah là, on a le sourcil de François Simon.
Que des notions.
Ah oui,
Niedermachschwehr.
Exactement.
Délicieux village. Oui. Mais dites-moi, Linzer Torte, c'est pour autrichien, non, un peu?
Ah si, exactement.
Ouais, je sens un peu cavalière quand même.
C'est vrai? Ça sent germanique.
Ouais, c'est à la base, ça a des origines autrichiennes, et puis après, la recette a un peu voyagé en Allemagne, en Suisse et en Alsace, évidemment.
Loïc Bienassi, on se tourne...
Je confirme, heureusement.
On se tourne vers une petite généalogie de cette tarte de Linz.
En fait, c'est, on a des recettes qui datent de 1653, de cette tarte. Un manuscrit qui a été retrouvé il y a quelques années. Mm-hmm. Donc c'est vraiment un dessert ancien, parce que même ces recettes-là sont assez proches des variantes actuelles. Parce que, évidemment, il n'y a pas qu'une recette. Donc il y a une famille de recettes avec ce nom-là qu'on trouve dès le XVIIe siècle. Recette autrichienne, en effet. Et puis, peut-être, comme au-delà des variantes familiales, il y a quand même... Je pense peut-être deux grandes familles. Je crois qu'en Autriche, ça va être davantage avec la groseille. Et puis en Alsace, plutôt framboise. Et en Alsace, on voit que c'est...
Autriche et Suisse, visiblement.
Oui, tout
plutôt,
à fait. Ouais.
Plutôt groseille, ouais. Puisque la Suisse, qui a une partie germanique, est également concernée par cette recette. Et Allemagne et Alsace, ce serait plutôt producteur de framboise.
Je pense que c'est ça, il y a cette frontière-là. Et en Alsace, on trouve déjà trace de cette tarte dans des traités de pâtisserie français aux alentours fin 19e, mais en Alsace, ça a l'air d'être devenu une consommation assez banale, au moins, et peut-être avant, au moins depuis l'entre-deux-guerres.
Donc, alors, voilà. Commentaire sur cette tarte de Linz, Zazie, Manon.
Est-ce que la particularité, c'est toujours de laisser le grain de la confiture ? Parce que là, il y a ça aussi qui fait qu'on a tout de suite identifié la framboise.
Pour avoir cette texture assez sympa, moi j'aime bien prendre des confitures avec le grain. Et puis celle-ci, elle est à 70% de fruits, donc vraiment concentrée en fruits, ce qui est chouette aussi. Après, l'idée dans des recettes sans chichi, c'est aussi d'utiliser la confiture qu'on a, mais celle-ci est particulièrement...
On peut varier les plaisirs confiturés à la surface de cette tarte, en effet.
En restant plutôt dans les fruits rouges, je dirais.
Ah d'accord. Moi, j'envisageais une petite confiture d'abricot. Je vous dis ça parce qu'il y a aussi une grande tradition de tarte à la confiture en Italie, avec, vous savez, ces croisillons de pâtes. Et là, pour le coup, on peut se lâcher un peu, y mettre une confiture de fruits à noyaux ou de fruits à pépins. Zazie, cette
tarte... C'est délicieux. On parlait des tartines de confiture de notre enfance et ça rappelle vraiment ça, en fait, ce côté réconfortant et le côté croustillant, un peu, justement, le fait qu'il y ait encore les grains de la framboise. C'est très très bon.
Ça rappelle un peu vous savez, les lunettes aussi. Vous connaissiez
ce... Il y a dans le livre d'ailleurs aussi,
ouais,
il y a
absolument.
Une recette de lunettes.
Il y a une recette de lunettes. Alors là, on parle vraiment d'une espèce de bicouche de pâte sablée.
Exactement, avec de la confiture au centre, ouais. Mais une pâte sablée un peu plus simple, à base de beurre, de farine, d'œuf, mais moins épicée.
Ouais, qu'on a acheté, c'était un plaisir de boulangerie.
Absolument, un plaisir de boulangerie.
Avec le sucre glace par-dessus.
Sucre glace aussi, c'est important. Manon a ses références. Moi, c'était un truc qui comptait pour moi, la lunette. François ?
Bien plombant.
Oui, bien plombant.
On trouve tout le sérieux d'une région admirable, l'Alsace. Donc, en adéquation.
Oui, absolument. Ouais. Bah, on sait manger en Alsace et on a un répertoire sucré tout à fait prodigieux. Pour mitonner ce goûter gourmand en direct, Lorraine Thomas, Laurent Baudouin, Fabrice Rivaud, des recettes sucrées, plein d'autres, et des éclairages historiques sur le goûter. Juste après, Not Like That Anymore de Lola Young. Bon appétit sur France Inter.
déguster.
Quand on revenait de l'école, elle nous avait préparé ces fameuses tartines avec la peau de lait qui nous attendait sur la table, soit avec de la gelée de groseille dessus, ou soit avec de la poudre de chocolat.
Vous l'avez reconnu ?
Oui. Michel. Bras.
Ah, Manon l'appelle Michel. Mais absolument. Ouais,
bah, tout le monde l'appelle Michel bah, dans sa cuisine.
Monsieur Bras. Vous avez raison,
Manon. J'ai quand même beaucoup de respect pour ce chef.
Absolument. Trois étoiles de l'Aubrac, Michel Bras, qui évoque avec nostalgie les tartines à la peau de lait. En voici une autre tartine que lui préparait sa grand-mère pour le goûter. Décidément, c'est très tartine dans les réactions de nos éditeurs
oui,
et de nos auditrices.
On a un auditeur, Étienne, qui, dans un même genre, si je peux dire, lui, conseille les tartines de camembert bien frais, trempées dans du chocolat chaud.
Non.
Une tuerie. Moi, ça me donne envie d'essayer, personnellement.
Moi, j'ai une petite anecdote de ma grand-mère qui, franc-comtoise, trempait les...
Dans la cancoyotte ?
Dans la cancoyotte, dans la ricorée au goûter, oui.
Ah ouais, ouais. Ah quand même
ouais.
Bah écoutez, on en apprend des... on en a des rituels dans nos régions françaises. Luc Bienassi, le goûter aujourd'hui est définitivement attaché à l'enfance. Ça remonte à quand, cette relation entre goûter et enfance ?
C'est finalement assez ancien. Alors, c'était évidemment pas l'exclusivité des enfants, mais par exemple, on a une citation d'un traité de 1702, traité des aliments, qui explique « Les enfants, donc on est en 1702, les enfants et quelquefois les vieillards ajoutent encore à ces deux repas, dîner, souper, le déjeuner et le goûter. »
Ah oui, donc ça concerne donc, les plus idée, jeunes et les plus vieux.
C'est ça, il y a cette idée en fait des personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire les enfants, les vieillards et aussi ceux qui travaillaient dans les champs ou les hommes de peu. On a d'autres textes qui expliquent ça en fait, que, contrairement aux aristocrates. Et, voilà. Donc il y a cette idée-là et par exemple dans le journal d'Hérouard qui est le médecin de Louis XIII, on voit que systématiquement, donc ça valait pour Louis XIII tout jeune, systématiquement Louis XIII avait un goûter, puisque le mot était employé, hein, c'était le mot goûter qui était déjà employé, le mot est attesté depuis le XVe siècle, on trouve le mot goûter. Au Moyen-Âge, il y avait d'autres mots, comme marrandé, par exemple, qui signifiait goûter aussi, mais sans horaire précis, c'est une collation, en fait. Et d'ailleurs, pour un noble, généralement, on parlait plus, malgré ce que je viens de dire pour Louis XIII, d'une collation que d'un goûter. Uh-huh. Il y avait le vocabulaire des manants et puis le vocabulaire aristocratique. Donc, voilà, le goûter, finalement, c'est un rituel installé depuis longtemps et associé à l'enfance depuis assez longtemps.
Clairement. Alors, il y a désormais, dans notre langage courant, une expression consacrée qui désigne une forme de goûter véritablement attaché à l'enfance, c'est le
4 heures.
4 heures. Ouais. Apparition dans le dictionnaire
tardive.
À une époque assez récente,
tout
en fait.
Tout à fait, oui, puisque le premier dictionnaire qui enregistre l'expression, c'est le Robert en 1961.
Seulement,
oui, mais on trouve des occurrences en réalité plutôt des régionalismes du côté de la Suisse, du côté de la Belgique, dès le milieu du 19e siècle.
On évoque déjà le 4 heures comme
c'est ça,
collation de l'après-midi.
Mais sans doute une formulation un peu populaire, parce qu'il y a un dictionnaire, par exemple, qui condamne, un dictionnaire du parler liégeois, qui condamne cet usage, c'est-à-dire prendre le 4 heures, pardon, ça, c'est une chose qui ne se dit pas.
Et pourquoi 4 heures, ça pourrait être... On aurait pu l'appeler le 5 heures.
On aurait sans doute pu, mais...
Je fais allusion à 5 o'clock, qui est plutôt l'heure du tea time pour nos amis d'outre-Manche.
Mais d'une certaine façon, l'usage qui s'installe au 19e siècle, donc le fait que le goûter s'installe aux alentours de 4h, 4h30, c'est plutôt acté, on le voit même dans des règlements d'usine, par exemple, ça c'est quelque chose d'assez clair. Par contre, j'allais dire, le goûter de la bonne société, bah, c'est le 5 o'clock. Il y a un peu cette... c'est... Ou le luncheon, on appelait cette expression. Il y a un ouvrage qui s'appelle Paris à table en 1846. Il se réécrit un peu, l'auteur, Eugène Briffaut, contre ce type d'anglicisme. Et on voit bien qu'en réalité, pour les enfants, on parle de goûter. Pour les adultes, les oisifs, un peu, de la bonne société, là, on parle... On peut employer le mot lunch, même pour ce... goûter, ou alors évidemment le 5 o'clock qui vraiment s'impose comme un usage de la bonne société dans la deuxième moitié du 19e siècle.
À partir de quand les industriels se jettent sur l'occasion pour faire de ce 4 heures un moyen de refourguer beaucoup de biscuits à nos plus jeunes? C'est le coup du biscuit industriel glissé dans le cartable du petit ou de la petite
Le développement de la biscuiterie industrielle, alors c'est évidemment la biscuiterie nantaise, notamment, avec Lefèvre Utile, là on est à la toute fin du 19e siècle.
Je me tourne vers François Simon, originaire de
Saint-Lazare.
Le Chocobéenne.
Et aussi avec une marque bordelaise qui s'appelait Olibé, qui est un peu oubliée aujourd'hui. Et clairement, il fallait qu'ils investissent certains créneaux. Il y avait ce qui commençait à être le petit déjeuner vraiment institué. et le goûter. Donc il y a tout un tas de, on voit, de publicités. Il y avait même, par exemple, une marque, je crois que ça s'appelait Sigo, et qui avait lancé le goûter des Russes. Alors j'ai pas bien vu, c'est des affiches que j'ai vues. Je sais pas de quoi était composé ce goûter, mais en tout cas, clairement, la biscuiterie, à partir de la fin du 19e siècle, et c'est allé crescendo, va investir en effet ce créneau du goûter.
Et évidemment, Florian, vous n'avez pas loupé le coche du biscuit dans votre livre « C'est l'heure du goûter sans chichi » aux éditions First, puisqu'il y a notamment des langues de chat hyper simples à faire. Moi, j'adore ça, j'adore le côté. C'est un peu l'appareil de la cigarette russe aussi, c'est ça, non ?
Oui. Oui, c'est 4 ingrédients seulement, c'est très simple, c'est vraiment sans prétention. C'est une recette un peu désuée, mais que j'invite à retester à la maison.
Vive la langue de chat, il y a quoi d'autre comme biscuits ? Il y a pas mal de sablés.
Oui, il y a des sablés à la confiture, on en a parlé avant. Il y a des cookies aussi, plusieurs recettes
évidemment.
De cookies.
Et en parlant de cookies, on a notre ami Elias, qui est pâtissier dans des grandes maisons, qui vient souvent dans le public dont va déguster et qui nous a préparé ces cookies que je fais circuler autour de la table. C'est le cookie d'Elias, qui est à la fois biscuité, censé être relativement moelleux. Un petit coup de croc, François Simon, il attend tellement votre commentaire, notre jeune Elias. Il y a une version cacao, c'est ça ? Et une version ? Cacahuète piment, faut pas qu'il y ait d'allergie à l'arachide. Hein. Attention, validé ou pas ? Là, on entend surtout des bruits de bouche.
C'est très cacaoté, ouais, très bon.
Ouais, un peu monotone, mais heureusement qu'il y a le sel.
Un peu monotone. Il est content d'être venu, Elias.
Moi, je dirais que c'est entre le sablé et le cookie, justement. Il y a un côté très friable, comme un sablé qu'on aimerait avoir justement avec au moment du tea time ou à la fin d'un repas comme une minardise, qui ressemble moins au côté vraiment beurré du cookie, quoi.
Oui. Alors vraiment croquant, hein, je trouve. Et c'est vrai que la petite pointe salée est quand même assez plaisante, je trouve. C'est vrai.
Merci en tout cas, Elias, et on vous propose de mettre votre recette sur le site internet franceinter.fr à la page On va déguster. S'il y a bien une douceur qui est associée au goûter, eh ben c'est celle-ci. Allez, un petit indice, un texte très célèbre qui fait partie de notre patrimoine littéraire. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amodelir un morceau de Mais à l'instant même où la gorge émêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi.
On peut le dire ?
Ah bah oui, j'espère bien. La Madeleine.
On parle de Madeleine, ouais.
Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Et effectivement, cette Madeleine, elle a l'air pas mal du tout parce qu'elle épouse les formes conventionnelles d'une Madeleine, Florian. C'est-à-dire qu'elle est bien bossue.
Ouais, c'est ça. C'est une forme de coque de bateau avec une petite bosse au milieu.
Coque de bateau, on pourrait presque dire coquillage aussi.
Ouais, aussi.
Bon, il y a plusieurs théories sur pourquoi la Madeleine porte une bosse. Vous avez un avis sur la question ou pas, Florian ?
Oui, alors c'est pas vraiment mon avis, je crois que c'est plutôt un truc un peu technique, c'est que le moule de la madeleine est creux, donc au milieu il va y avoir plus de pâte, ce qui fait qu'il va se passer un choc thermique entre la température de la pâte qui va être tempérée, voire froide, et la chaleur du four, et donc au milieu il y a plus de pâte, ça va mettre plus de temps et donc continuer de gonfler au centre et créer cette petite
bosse. Est-ce que notre chef étoilé... Manon Fleury valide cette théorie.
Tout à fait validé.
Choc thermique.
Tout à fait validé. Après, il y avait aussi, alors c'est pas dans l'historique de la madeleine que je connais pas très bien. Il y avait aussi le fait qu'on cuisait ça aussi souvent. Il y a les moules, mais il y a aussi les coquilles de Saint-Jacques.
C'est vrai.
Et donc qui donnaient vraiment cette forme. Mais effectivement, c'est le choc thermique entre l'appareil qui est très froid et le four très chaud.
La madeleine, on va évidemment détailler cette madeleine qui est bien beurrée, délicieuse, un bon goût de citron. Mais alors la madeleine, là aussi, son invention, il y a beaucoup d'hypothèses, Loïc Bienassi.
Alors oui, et petite remarque en passant, il y a des états du manuscrit de Proust où on voit qu'il avait d'abord fait manger une biscotte et il avait hésité avant de s'arrêter sur la madeleine.
Vous avez raison.
Pour la madeleine, c'est un gâteau qu'on voit en fait apparaître au XVIIIe siècle. La première recette date de 1755, elle n'avait pas cette forme encore. une recette quand même assez proche de ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, de toute façon, pas une recette canonique. Et non, juste avoir en tête que la fameuse légende de Stanislas Leszinski, donc qui est duc de Lorraine, et quand même, c'est une servante qui, parce qu'il n'y avait plus le pâtissier, avait dit « Attendez, moi, je peux faire une recette. » Elle s'appelait Madeleine, on aurait ainsi baptisé le gâteau. Bon, ça, c'est faire partie ça, du...
C'est de la foutaise.
Ça fait partie du folklore culinaire. Je ne parlerai pas comme ça, évidemment. Du folklore culinaire.
Mais c'est totalement faux historiquement.
Oui, oui, tout à fait. C'est un récit qui apparaît au 19e siècle, ça.
C'est les belles histoires. Et il y a la Madeleine de Commercy, quand même.
Alors, la Madeleine de Commercy.
On parle d'une Madeleine de Lorraine.
Mais d'ailleurs, je pense que c'est sans doute parce qu'il y a eu la Madeleine de Commercy en Lorraine que c'est aussi consolidé ce folklore. Madeleine de Commercy, qui apparaît peut-être au 18e siècle, en tout cas dans les années 1820-1830, à coup sûr, une petite industrie locale, quoi.
Un bon goût de miel et de citron au cœur de votre Madeleine, Floriane Dumaine. Comment on s'y prend? Elle est délicieuse.
Merci. C'est pas très compliqué. On fouette, on blanchit des œufs avec du sucre. On va ajouter un mélange de miel et de lait un peu chaud. Ensuite, on ajoute de la farine, on mélange tout ça et on va garnir des moules à madeleine beurrées.
Il faut des moules à madeleine, évidemment.
Ouais, ça peut servir. au ras du moule, et ensuite on enfonce dans un four assez chaud.
Vous utilisez quel miel? Il a une belle aromatique.
Ouais, là
c'est un miel assez neutre ou...
C'est un miel de châtaignier que j'avais à la maison.
Ah ouais, donc avec un tout petit peu d'amertume.
Ouais, et qui est quand même assez prononcé, mais après, encore une fois, l'idée c'est de faire avec ce qu'on a, si possible un miel français, mais n'achetez pas forcément un pot de miel exprès pour faire la recette.
Il y a un petit glaçage qui fait qu'il y a une petite croûte, ouais, comme ça, assez qui croque.
Ouais, il y a une petite croûte de sucre, donc avec du jus et du zeste de citron et du sucre glace, tout simplement.
Validez cette madeleine ou pas?
Survalidé, c'est hyper bon.
Ouais.
Et je pense qu'il y a aussi deux familles entre les gens qui mangent des madeleines chaudes qui sortent du four et cette madeleine qui a l'air de pouvoir se conserver un tout petit peu.
Je les ai faites ce matin.
Ouais. C'est quand même aussi un des trucs particuliers dans la madeleine faite maison, c'est que ça se garde quand même assez peu versus la madeleine industrielle qu'on connaît. Je voulais parler du moule parce que c'est, je pense, aussi une des questions souvent. C'est est-ce qu'on préfère un moule en silicone ou un moule, un vieux moule?
Moi, je suis plutôt team vieux moule.
On est d'accord.
Oui.
Et pour réaliser une madeleine comme ça, je vous assure qu'on n'y arrive pas avec un moule en silicone.
Vieux moule en métal, ça saisit davantage.
Ouais.
Les
moules en métal,
en
fer blanc,
c'est
hyper bien.
Ouais. Ouais.
Écoutez, madeleine ultra validée.
Qu'on ne passe pas au lave-vaisselle, pardon.
Oui, oui, bien sûr qu'on passe. Oui, on
mais
on
ça fait partie des trucs
suit,
qui sont,
bien sûr, c'est important.
Qui sont vraiment importants, de trucs de grand-mère, mais qu'il faut remettre au goût du jour, je pense, dans les pratiques de pâtisserie à la maison.
Absolument. Vive le moule à madeleine et surtout les madeleines qu'il y a à l'intérieur. De Floriane Dumaine, la recette sur franceinter.fr, à la page On va déguster. On va descendre un peu vers le sud, cap sur l'Estac, avec Zazie Tavitian, pour déguster le plus populaire des goûters marseillais.
On va déguster sur France Inter.
Zazie, vous avez donc décidé de nous faire goûter les chichis. Ça y est, le mot est lâché. Chichis.
Oui, et même des chichis frégis, François Régis. Alors, Floriane, votre livre s'appelle « C'est l'heure du goûter sans chichis ». En lisant votre titre, je me suis dit « Mais comment ça, sans chichis? Moi, je veux un goûter avec des chichis ». Les chichis, c'est donc le nom de ces beignets frits que l'on trouve dans le quartier de l'Estac à Marseille. Je dirais même plus que si vous vous rendez à l'Estac, vous êtes obligé de manger un chichi dans l'un des trois kiosques qui les vend devant le port. Le nom de chichis frégis viendrait du provençal. Chichi, petit morceau, et frégis, frit, tout simplement. Ces kiosques, ils vendent aussi des panisses, les petites galettes de pois chiches. Mais moi, j'étais là pour les beignets. L'été, il y a toujours une très longue file pour venir en manger. C'est pour ça que, Maline, j'ai attendu octobre. Je m'y suis rendue dès l'ouverture, à 13h30.
Moi, je m'appelle Roger. C'est le kiosque Lugustado de l'Estaco. C'est en provençal, ça veut dire tout simplement le goûter de l'Estac.
Ça veut dire que le chichi, ça se mange pour le goûter?
Oui, entre autres, ça se mange pour le goûter, mais on en vend à toute heure. On en vend le soir, quelquefois, on en vend le matin aussi.
4 chichis ou 4 douzaines? 4 chichis au sucre?
Hein, je prends ma boule, mon pâton qui a été préalablement confectionné, je l'étire. Et puis, je le mets dans le bain, voilà, en faisant attention à ce qui ne se rétracte pas trop. Voilà, un beignet entre 35 et 40 cm. Je n'ai pas le mètre, mais a priori, je pense que c'est ça.
Et Roger, vous êtes né à l'Estac?
Oui, je suis né à l'Estac et je connais les kiosques depuis toujours.
La première, je crois que c'était en 47, et celle-ci quelques mois plus tard, en 48 à peu près. J'ai connu l'Estac, c'était carrément encore le petit village de pêcheurs. Hein.
Et quand vous étiez petit, vous alliez manger des chichis ?
Occasionnellement, ça m'arrivait, ouais. Et je suis pratiquement tout le temps venu ici. C'était une dame qui s'appelait Ninou. Son prénom, en fait, je ne l'ai jamais su, son vrai prénom. Tout le monde l'appelait Ninou.
Je sais que c'est un peu des recettes secrètes, mais est-ce que vous pouvez me dire quelques ingrédients qu'il y a dans cette pâte quand même ?
Oui, bien sûr, il y a de la farine, évidemment, du froment, hein. Il y a des œufs, il y a une matière grasse, du sel, puis après il y a le petit secret que je ne vous révélerai pas. Il y a 20 ans que je dure, donc je ne dois pas être trop mauvais.
Et est-ce que vous pouvez juste me décrire un peu le kiosque ? Parce que d'un côté, il y a le kiosque qui est ouvert, donc les gens ils viennent commander leur chichi.
Oui.
Ça doit faire peut-être...
9 mètres carrés, exactement.
9 mètres carrés,
oui.
Et votre cuisine, elle doit faire 3 peut-être ?
Oh, la cuisine, non. 2 mètres carrés, maximum 2 mètres carrés.
Mais vous avez une vue sur la mer.
J'ai la chance d'avoir ce panorama. Lorsqu'il fait chaud, souvent il y a du vent de mer, du vent rentrant, là, et qui me rafraîchit un peu, parce que je ne vous dis pas la chaleur qu'il fait ici l'été. Hein.
Et c'est assez impressionnant de voir Roger et sa fille Carla évoluer dans cet espace si petit où tout est fait minute, même la pâte qui est pétrie dans un tout petit coin. Et il faut dire que la pâte, il en faut car ici, ça défile et même un vendredi hors saison.
Qu'est-ce qu'il vous faut ?
2 au sucre, s'il vous plaît. Et il y en aurait un bien blanc.
Allez, un bien blanc sur les deux.
Ah, moi, c'est les fidèles habitués de génération en génération. C'est les meilleurs de l'Estac.
Et vous prenez quoi, vous, comme chichi ?
Chichi au sucre, c'est... Bon, après, quand on est plus gourmand... Avec Nutella, chantilly, c'est... Oh là là, vive les calories.
Vous venez de l'Estac ou vous venez exprès pour le chichi ?
On vient exprès pour le chichi ici, oui. Parce qu'ils sont très bons et franchement, on n'a rien à dire. Moi, c'est Nutella sucre et mon conjoint, c'est sucre.
Donc vous, c'est votre dessert, hein, on peut dire ?
Non, c'est mon repas, parce que je préfère manger un chichi qu'un plat, ouais.
Et Carla, donc vous êtes la fille de Roger ?
C'est ça, et je sers du coup au kiosque depuis le mois de janvier dernier. Donc avec mon cousin Stéphane et mon père, pour apprendre le métier et pour assurer la relève du coup du kiosque à chichi. Je suis persuadée que si ça se perd, ça sera forcément changé, et si c'est changé, ben, ça restera plus authentique. Et on a gardé une recette qui date de 70 ans, donc puisque c'est la recette de Ninou, donc qui a inchangé depuis, voilà. En tout cas, avant d'y travailler, je pensais que c'était plus simple. Et aujourd'hui, en y étant confrontée, je vois qu'il y a plein de choses qui peuvent interférer. La température extérieure, voilà. Et j'ai certainement beaucoup de choses à apprendre. Après 20 ans, je vois que mon père apprend toujours.
Vous allez le goûter. Et comme ça, vous ferez un avis personnel, voilà.
Et le chichi sucre, du coup, c'est 2,80.
C'est ça, 2,80.
Vous êtes resté sur des prix petits.
Oui. On a une clientèle de gens simples. C'est familial et... C'est pas des gens très fortunés, et bon ben on n'a pas réduit sur la qualité, mais on a un peu rogné sur nos marges.
Alors ce chichi, il était comment, Zazie ?
Bah, il était délicieux, c'est chaud, c'est moelleux, ça croustille, c'est extrêmement réconfortant.
Et attendez, c'est énorme, c'est gros comme, je
comme
sais pas...
Comme votre avant-bras, François-Régis.
Un tibia de mammouth, quoi.
C'est vraiment très grand, mais ça se mange bien. J'ai pris juste ce sucre. Et ouais, non, c'est vraiment très très bon. Je vous en ai pas ramené parce que ça se mange chaud, les chiffres, donc il faudra aller à l'Estac. Je vous redonne l'adresse, c'est Lou Gustado de l'Estaco, 38 plages de l'Estac, dans le 16e à Marseille. Et à côté, vous avez aussi deux autres kiosques, vous avez chez Magali ou encore chez Freddy. Donc chacun ont leur recette particulière. Et comme le dit Roger, il faut tous les goûter pour se faire un avis. Bon, peut-être pas forcément le même jour. Peut-être faire un petit séjour sur 3 jours pour en goûter un chaque jour.
Et ne dites surtout pas à un Marseillais que le chichi, c'est un churros.
Ah non, c'est pas la même
chose. Le chichi, c'est le chichi.
C'est le chichi. C'est pas du tout la même forme aussi.
C'est pas la même forme, c'est pas forcément la même pâte. C'est frit, évidemment.
Oui.
Il y a du sucre dessus, mais ça s'arrête là. Il peut y avoir un peu de fleur d'oranger.
Il peut avoir un peu de fleur d'oranger, mais pas dans les chichis de Roger.
François Simon, vous avez déjà goûté des chichis ?
Non, mais ça me donne. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, on peut faire un repas. Et moi, j'aime bien, par exemple, quand je prends des glaces, de sauter le repas et me consacrer à ma glace.
Et là, vous prenez combien de boules ?
C'est pas en termes de boules, hein, François-Régis.
Qui aime les chichis autour de cette table ?
Moi, j'ai jamais goûté, mais ça me donne.
Moi, j'adore aussi.
Moi,
je suis déjà allée à l'Estac.
Moi, j'ose pas vous le dire. Je vous fais une confidence, j'ai jamais goûté. Pourtant, je connais bien Marseille, mais je n'ai jamais goûté
de
chichis. Et
en plus, le lieu de l'Estac, c'est vraiment particulier. Ça ressemble pas au reste de Marseille. Il y a vraiment une atmosphère très particulière, comme un temps suspendu. Donc, ça vaut le coup, ça vaut le détour.
Vive le chichi, on va y aller ensemble pour.
On se fait une petite virée chichi.
Merci beaucoup pour votre reportage, chers Zazie. Dans un instant, le ding de François Simon. Une recette
implacable et impeccable de carrot cake, j'adore ça, et de délicieuses brochettes de fruits à l'accent chinois, signé Manon Fleury.
Sûr de trouver du blanc et de la beuh pour parler comme avant. Non, rien n'est comme avant, ça change tout le temps, c'est ça qui est effrayant. Non, désolé, je sais que c'est des mots de daron, j'ai l'impression que tu me vois qu'en fraction alors que je suis ton frère. C'est pour la vie qu'on est des frères. Ça peut pas se kéblo sans un mot. Que pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est. L'histoire des hommes bégaye. Il est humain de tuer un homme, mais inhumain de pas lui dire pourquoi. Je sais pas qui a dit ça. Je crois bien que c'est moi, à toi, frérot. Alors comme ça t'es plus mon frérot. C'est comme si on m'avait tiré dans l'eau, même pas en m'appelant. Putain, tu m'appelleras quand tu seras réglo. Par l'oreille tu feras mine de boire de la croix. Non, rien n'est comme avant, ça change tout le temps. C'est ça qui est excitant. Non, frérot, c'est pour la vie qu'on est des frérots. Frérot, c'est pour la vie qu'on est des frérots. Frérot, désolé, frérot, frérot, désolé. C'est pour la vie.
Philippe Catherine en mode voice coder avec son titre Frérot, c'est l'heure du goûter avec notre invitée Floriane Dumaine, autrice de C'est l'heure du goûter justement, et sans chichi s'il vous plaît, dans une collection intitulée La cuisine des gestes simples chez First Edition.
On va déguster sur France Inter.
François Simon au menu, cette fois-ci, enfin, une chronique qui avait été reportée. Il est question d'air, n'est-ce pas? Mais alors... quel rapport, François, avec le goûter?
Pas grand-chose.
Ah, mais encore.
Bah, du reste, acceptez, cher François-Régis, toutes mes excuses, car il ne sera pas question d'air.
Ah bon? Ah bah décidément, elle est maudite, cette chronique.
Bah, écoutez, en vous écoutant depuis tout à l'heure, je me suis dit qu'on pouvait quand même évoquer le goûter, non?
Voilà. Alors François, j'ai un peu de mal à vous suivre. Là, on touche le plafond avec vous.
Parfaitement. Nous sommes bien d'accord. Parfois, on a du mal à comprendre ce qui se passe. J'ai comme l'impression que la gastronomie est devenue incompréhensible, mais toujours aussi passionnante. L'univers de la table, même si l'on approche doucement, à tâtons, reste confus. Sincèrement, arrivons-nous à piger ce qui se passe? Qui tient le volant? En cela, cet univers ressemble comme toujours à celui de la mode. C'est souvent d'ici que parviennent les premières secousses, puis cela gagne par capillarité d'autres univers fonctionnant au même ressort, c'est-à-dire le désir, l'envie et le plaisir. Récemment, le créateur Yoji Yamamoto disait ceci. La mode est devenue une vaste blague, tout tourne autour de l'argent. Les grandes entreprises de mode, c'est comme des enfants qui jouent au foot. Ils courent juste après le ballon, ils ne pensent pas à leurs clients. Ce n'est pas sans rappeler la haute gastronomie où bien souvent, les chefs jouent avec leur ego, délivrent des plats interchangeables et bien malins, qui pourraient identifier, à l'aveugle, tel poisson travaillé par 5 chefs majeurs. Ici, aussi la mode, la gastronomie, sont devenus le luxe, tout se ressemble ou presque, il y a un excès de la visibilité, et par là, une saturation, alors que le désir a besoin de rareté. Il s'effrite donc. Il faut donc aller gratter, comme vous le faites en ce moment, vers des niches, des particules comme le goûter. Et parmi ce nouvel individualisme de masse...
Un nouvel individualisme de masse, dites-vous?
Bah oui, chacun pour sa pomme, quoi. Le plaisir de la table est devenu moins visible, plus secret. Dans ces vins que Jérôme, Justine vont chercher régulièrement, les saveurs et savoirs du Zès, les livres, les fenêtres d'Elvira, de Zazie, de Manon, ou comme aujourd'hui, un micro-continent, le goûter. J'ai l'impression aussi qu'il est gagné par les nouvelles tendances, le mou, la languille, le glissement, l'évasif, et le goûter n'y échappe pas. J'ai connu ce moment plus dental, mastiquant. Le chocolat croqué, le pain et sa croûte, la pomme, ça y allait dans l'incisive. C'est ce que dit aussi, d'une certaine manière, Yves Candebord dans un passionnant interview accordé au Figaro. Il évoque un passé beaucoup plus viriliste, ça c'est vrai, un peu rude tout de même, c'est évident, tel qu'il est décrit dans la caricaturale et frontale série de télévision Bistronomia. Que nous dit Yves Candebord ? Je me demande toutefois si ce changement de civilisation ne se fait pas au détriment du goût. Je suis très impressionné quand je vais manger dans les restaurants où il n'y a plus aucun stress ni pression. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de cuisson en direct, comme le faisait notre génération. Il fallait être concentré, car cela se jouait à rien. Une sensibilité, une odeur, un visuel. On n'est plus que sur des cuissons basses, avec des températures en amont qui donnent un résultat très lisse. Toujours dans le moelleux, le mou, le tiède et le sucré, symbolisé par le succès du hamburger, qui permettent aux gens de manger sans réfléchir alors qu'il est reconnu que mâcher est très important. C'était aussi un autre temps, comme le nouveau roman au temps de la nouvelle cuisine, déstructurant le récit et sa tension, sa dramaturgie. Le tournant actuel s'en retourne comme une vague mourante dans son ressac. C'est un langage sans syntaxe. Rien de triste pour autant, car sans que nous nous en rendons compte, ni nous le comprenons, s'installe en ce moment même ce qui nous attend, et donc clairement, vivement la suite.
Vivement la suite. Il est vrai que on se plonge pas mal dans des textures molles, alors c'est le principe quand même du madeleine, même s'il y a cette petite croûte sucrée qui vient croquer et apporter un peu de relief. Par définition, le goûter, c'est l'univers du tendre, du sucré, du régressif, Loïc Bianassi.
Oui, alors là, on a eu du croquant quand même avec la tarte de Linz.
C'est vrai,
quand même. Ouais. Mais il est vrai qu'on parlait des tartines. Au 19e siècle déjà, on se rend compte que c'est un peu le goûter par excellence. Quoi. Donc, alors en effet, le pain qui en plus n'était certainement pas de la baguette, et peut-être que là, on avait quelque chose de plus robuste
ouais,
à croquer.
Le pain était plus dur, le croissant était très dur au départ.
Oui, alors.
À l'époque de Vienne, 1600 et quelques.
Oui, oula, ça c'est, alors ça dans le genre légende, on est pas mal.
Ça existait sous un autre nom, le croissant.
Non, alors les Kipferl, mais qui sont un autre. Qui n'ont finalement rien à voir, hormis la forme, avec les croissants en okay. réalité. Mais la première recette de croissant moderne dont on dispose, c'est 1906. Avec, sinon, les croissants du 19e siècle, c'est plutôt des sortes de pains en forme de croissant.
Mais qu'est-ce qui a fait que, soudainement, ce qui était très dur à mastoc est devenu totalement aérien, léger? C'est les croissants qu'on connaît aujourd'hui.
Cette appropriation du croissant, alors, qui est quand même, on va dire, une création parisienne, le goût pour la pâte feuilletée, notamment, cette pâte feuilletée levée, je pense qui plaisait beaucoup aux Parisiens, quoi.
Si vous voulez en savoir plus sur le croissant, vous tournez vers la chronique du jour de François Simon dans la Tribune du Dimanche.
Les diables, vous lisez
aujourd'hui
ce journal-là.
Ah, bien sûr, il y a votre chronique Bravo. Tous les dimanches. Je suis assez lèche-cul, hein, oui. Va-t-il y avoir du juteux, du mou, du croquant dans la recette surprise et très énigmatique que nous a préparé Manon Fleury. Manon Fleury, c'est la chef étoilée du restaurant Datil, Paris 3e. On est ravis de vous retrouver, Manon. Vous venez souvent nous raconter vos histoires de goût et vous nous dévoilez votre vision du goûter à travers cette petite surprise.
On va déguster sur France Inter.
Il y a ce moment de la journée où le temps se suspend un peu. Au creux de l'après-midi, entre la fatigue et la douceur, le goûter. L'évoquer suffit à faire surgir des images, des rires dans la cour de récré, des gâteaux d'anniversaire et du bruit des papiers des bonbons que l'on déplie avec empressement à la sortie de l'école. Finalement, prendre un goûter, c'est donner la permission à l'enfance de s'attarder. On mange avec les doigts, on croque à pleines dents et le sucre n'est pas une faute. C'est de là que vient l'inspiration de ces raisins caramélisés que j'ai réalisés aujourd'hui, que l'on appelle tangoulou, qui sont des brochettes de fruits enrobées de sucre cristallisé que l'on trouve notamment en Chine, Traditionnellement, elles étaient faites avec des senelles d'aubépine, des petites baies rouges et acidulées. Aujourd'hui, on y plante des fraises, des raisins, parfois des mandarines, et on les mange partout en Asie. Il s'agit de sucreries que l'on achète à la volée dans la rue et que l'on mange aussitôt, à même la brochette, avec leur coque de sucre transparente tout juste figée. Chez Dattil, cette petite brochette est servie comme mignardise à la fin du repas. Elle est faite avec du raisin. Ici, j'ai utilisé une variété de raisin framboise qui est très aromatique et sucrée, dont les grains sont enrobés dans des feuilles de chiso. C'est une recette qui illustre bien la cuisine de Dattil, où les fruits occupent une place importante tant dans les plats que dans les desserts. Ici, la brochette repose essentiellement sur le fruit et se veut ainsi être une alternative un peu plus saine pour le goûter. À la maison, la recette est simple, joyeuse et très ludique à réaliser, notamment avec des enfants. C'est un dessert que l'on prépare avec les mains, sans trop d'étapes, et qui permet de les impliquer pleinement. Cela a aussi l'avantage de leur donner envie d'aimer les fruits, tout en transformant la préparation en un vrai moment de jeu et de curiosité. Pour la recette, on commence par égrapper et laver le raisin, en essayant de ne pas abîmer les grains. On les entoure de feuilles de chiso de manière à ce que tout le grain soit entouré par la feuille. On pique ensuite le raisin enveloppé sur des pics à brochette, sans trop les enfoncer. Puis vient le moment du caramel. On met le sucre et l'eau dans la casserole à feu doux et on attend. On laisse chauffer, sans mélanger, pour que le sucre fonde uniformément. Il fond, il bout, puis se colore d'un blond clair. C'est là qu'il faut agir, retirer la casserole du feu et plonger les brochettes une par une dans le caramel. Tourner et tapoter pour enlever le trop-plein de sucre avant d'admirer la fine pellicule dorée qui se fige presque instantanément. Si le caramel devient trop épais et que l'enrobage des raisins devient difficile, il faut le réchauffer avant de recommencer. On dépose les fruits sur une plaque et quelques minutes après, le sucre a durci et les raisins sont prêts à être mangés. Quand on croque dedans, il y a d'abord le craquement net de la coque comme celui d'un bonbon, puis le jus de raisin qui éclate, frais, sucré, presque pétillant. C'est vraiment cette dualité qui m'a plu et le contraste entre le croquant et le juteux, entre la régression et la sophistication de ces bonbons qui ressemblent à des perles. Finalement, cette petite brochette incarne ce moment suspendu entre enfance et âge adulte où le plaisir du sucre retrouve la simplicité du fruit.
On a hâte de les déguster à vos brochettes, les tangoulou. Un,
une bouchée,
deux,
hein.
Deux, trois.
Ah, oh, j'adore.
Ah, le chiso, tellement bien vu.
Oh la vache.
Ah ouais.
Ouais, bien. Pardon, hein, c'est... Ce n'est pas destiné.
Extraordinaire. Mais il y a le croquant du sucre, il y a le juteux du raisin,
il ouais.
y a les notes un peu épicées, légèrement cumin, du chiso.
Pas mal. Hein.
Quelle surprise.
Vraiment bien.
Et en même temps, ça colle aux dents comme une friandise ouais. finalement.
Pas trop.
Un petit peu. Mais
oui, c'est
un peu
voilà. pas mal. Aussi. C'est pas du tout rédhibitoire. Non, mais je veux dire, on ne fait pas tomber le dentier, quoi.
Non.
Enfin, j'en ai pas, personnellement. N'est-ce pas, Loïc ?
On en apprend des choses.
Alors ?
Ben, je trouve ça ouais, vraiment délicieux, plein de surprises. Et c'est aussi intéressant par rapport à ce que vous disiez, enfin, Simon, et notamment ce que racontait Yves Candebord sur une nouvelle cuisine qui serait que molle, d'une génération de chefs, etc. Là, on voit c'est tout à fait le contraire quand même, parce que c'est une cuisine faite avec le feu. Enfin, vous étiez avec votre réchaud, Manon, juste avant l'émission, à faire bouillir votre caramel, enfin, cuire votre caramel minute. Et à ce côté vraiment plein de matière croustillant, on en a sous la dent.
Ouais, c'est bien.
Mais on n'oublie pas la douceur.
Et c'est comme un point d'exclamation, quoi. J'aime bien,
exactement.
Moi, genre de syntaxe hyper. Après, on ne sait plus quoi faire, ni quoi boire, ni quoi manger. On est sur une petite île. C'est bien, moi j'adore.
Génial. Et c'est donc la petite mignardise de chez Dattil.
En ce moment, oui.
Waouh. Et ça peut se faire avec d'autres fruits.
Ça peut se faire avec plein d'autres fruits. Alors, on a testé pas mal de choses. Ça ne fonctionne pas avec tous. D'où le trend sur Instagram, Satangoulou ou pas. Mais ça fonctionne particulièrement bien avec tout ce qui est petits fruits comme les fruits rouges, les physalis,
eh oui
etc.
Physalis,
qui
bien sûr.
Voilà.
Les fameux amours en cage.
Exactement.
Et vous le servez à quel moment alors au cours du repas ?
Vraiment à la fin du repas.
Après, comme on ne peut plus rien faire.
Non, c'est fini.
Rideau.
Mais je pense que ce serait parfait aussi comme petit encas au milieu de l'après-midi quand voilà, on a juste envie d'un petit coup de sucre.
On finit, merci beaucoup hein, Manon. Quelle surprise. On finit avec, alors là pour le coup, on va dire un totem de la pâtisserie, du baking anglo-saxon, le carrot cake qui a colonisé depuis bien longtemps la France. Et qui est présent dans votre livre, preuve que on peut aussi goûter. Il y a d'ailleurs une grande tradition de goûter dans les pays anglo-saxons et notamment en Angleterre à travers le tea time. Même si au tea time, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on mange surtout des petits sandwichs, les cucumber sandwiches, des petits sandwichs salés, etc. Mais alors, carrot cake, votre carrot cake, vous le revendiquez, vous le revendiquez comment ? Parce qu'il y a plusieurs écoles, évidemment, Floriane.
Oui, sur le carrot cake, on est moins sur un souvenir d'enfance. C'est des recettes qu'on a découvertes un peu plus tard avec les fameux coffee shops qui ont colonisé toutes les villes de France. Alors là, on va repasser sur du moelleux, sur du mou, après cette petite sucette croustillante. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans ce gâteau, c'est qu'il a une texture... Enfin, les anglo-saxons le disent « moist ». Humide en français, c'est un peu moins joli, mais donc ça c'est dû à l'humidité des carottes, et puis on met aussi de l'huile végétale à l'intérieur, c'est pas du beurre.
Vous êtes en train de nous dire qu'il est totalement végétalien?
Ah non, parce qu'il y a des œufs.
Ah oui, il y a des œufs.
Ouais.
Et puis par ailleurs, il y a un glaçage à base par de cream cheese, ouais. Donc je suis totalement à côté de la plaque.
Exactement. Et puis ce que j'aime bien aussi dans ce gâteau, c'est rajouter des épices. Donc là, j'ai utilisé les épices du pain d'épices. Donc ça va être cannelle, cardamome, girofle. Et voilà, et vous l'avez dit, avec un petit glaçage cream cheese, beurre, sucre sur le dessus.
Et c'est un régal. Et j'aime bien, en effet, ce petit côté un peu humide, tout à fait agréable, qui participe évidemment au moelleux. Quand on dit carrot cake, je me tourne vers notre historien, parce que j'ai toujours entendu dire que le carrot cake serait né outre-Manche à une époque où le sucre venait à manquer, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, que pour sucrer les gâteaux, on s'est tourné vers l'un des légumes les plus sucrés, en l'occurrence, la carotte. Alors là, il me regarde avec des yeux...
Non, pas du tout. D'abord, je regarde toujours avec admiration. Et ensuite, ce type de recette, alors j'ai envie de dire, on en a vraiment donné les caractéristiques. C'est plutôt en fait des recettes américaines, à vrai dire. On les voit vraiment émerger dans les années 60.
Façon de me dire que je suis à côté de la plaque.
Non, pas du tout. Dans les années 60... avec tout ce qui a été dit là, c'est-à-dire à la fois ce glaçage à base de cream cheese, ce moelleux, je pense que c'est vraiment ça. Les années 60, États-Unis, ça ne veut pas dire qu'on n'utilisait pas la carotte en pâtisserie depuis bien longtemps, et notamment en Angleterre, et qu'en outre, en effet, durant la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, pourquoi ne vous dites pas n'importe quoi, il y a eu des préconisations pour utiliser la carotte comme agent sucrant. Absolument, avec des recettes qui circulaient.
On a échappé aux betteraves, au beetroot cake, au cake à la betterave.
Je ne sais pas, il y en avait peut-être aussi, on va dire, je ne sais pas. Qu'il y ait ce type de recette pour ce qu'on cherchait évidemment à suppléer aux banques.
Petit commentaire de dégustation, Manon, Zazie. Vous êtes carotte cake ou pas, François?
Là, je passe mon tour, parce que je suis en train d'étouffer.
Il exagère parce que c'est
avec tout le respect que j'ai pour Laura, mais c'est une merveilleuse madeleine. Adorée. Et là, non, j'arrive pas.
Moi, je trouve ça très très moelleux. C'est pas, pourtant, il y a pas le côté pour moi étouffe chrétien, le côté très moelleux, très humide. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que ce gâteau-là, il est arrivé. Enfin, moi, j'en ai jamais mangé dans mon enfance. Et effectivement, ça est arrivé un peu dans les coffee shops. Il y a une dizaine d'années, quoi. Enfin...
Mais c'est ça, est-ce que le carrot cake est un peu le symbole de ce goûter pour adultes, pour le coup, et pour urbains, il faut bien le dire. Attention, on est un peu dans la sphère légèrement bobo, même si il y a Paris, évidemment, mais toutes les grandes villes sont colonisées par ce nouveau petit établissement où on boit du café de spécialité avec des cookies, autrement dit, des totems sucrés plutôt anglo-saxons. Le coffee shop. C'est vrai qu'il n'y a pas de coffee shop sans carrot cake.
Ouais, et ce que je trouve moi un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas trop de revisites de ces recettes-là, et qu'on est toujours un peu sur les recettes avec ces épices, etc. Et que ça fait quand même quelques années qu'on ne voit que ça dans les coffee shops et qu'il n'y a pas trop de réinvention de ces classiques. Après, celui-là est très bon dans le genre.
Merci, Anna.
Mais c'est vrai qu'il est très bon et bien rattrapé, c'est sur ces mots qu'on se quitte. Malheureusement, c'est l'heure du goûter sans chichi. Merci pour vos trois très belles recettes. Et je peux vous assurer, j'en ai fait quelques-unes, que le reste est à l'avenant. Il y en a combien de recettes en tout dans votre livre, Floriane ?
50.
Des gestes simples aux éditions First. Merci beaucoup. La semaine prochaine, attention, couscous pour tous, une tablée de femmes et de couscous à partager. Ça va sentir Marseille, le Maghreb. On va en prendre de la graine avec nos invités et il y a une chanceuse qui sera là.
Ouais, je serai là et je vais vous faire découvrir un couscous assez délicieux que j'ai déjà goûté.
Zazie, ta vie, on sera là. Merci à vous. À bientôt. À très vite, François.
Avec grand plaisir.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.